Voilà, bonjour à tous et bienvenue au salon de lecture pour cette séance consacrée à la flûte Shakuhachi. Donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Madeleine Leclerc, conservatrice responsable du département d'ethnomusicologie et des IMP au musée d'ethnographie de Genève, et Daniel Lieferman, musicien, flûtiste, spécialiste du Shakuhachi. Alors, cette séance s'intitule Teruhisa Fukuda, maître de Shakuhachi, et elle était organisée à l'occasion de la parution du double album que nous avons ici, en double album vinyle, Japon, Teruhisa Fukuda, maître de Shakuhachi, offrande musicale, et donc dont Madeleine Leclerc a assuré la direction éditoriale. Voilà, je laisserai Élodie et Madeleine vous en parler un petit peu plus. Je voudrais juste vous faire une petite présentation. Je suis assez émue et heureuse d'accueillir Madeleine Leclerc, avec laquelle j'ai travaillé quelques années quand elle était au musée. Et donc, je vais vous la présenter. Donc, Madeleine mène une double activité de recherche dans les domaines de l'ethnomusicologie et de la muséographie. Elle a intégré l'unité de musicologie du département d'histoire de l'art et musicologie de l'UNIGE à l'automne 2016. Elle y est chargée d'enseignement dans le cadre du master d'ethnomusicologie. Elle occupe aussi la fonction de conservatrice du département d'ethnomusicologie au MEG, Musée d'ethnographie de Genève. Elle l'a intégrée en novembre 2012. Elle y est responsable des collections d'instruments de musique et des archives internationales de musique populaire, IMP, donc, fondée en 1944 par le musicologue et chercheur roumain Constantin Brailoiu. Elle est aussi éditrice, j'ai mal prononcé. Ah bon? Elle est aussi éditrice de la collection discographique MEG IMP VDE Gallo. Voilà, entre 2000 et 2006, elle participa au chantier de construction du musée, c'est-à-dire à l'arrivée des instruments de musique que vous pouvez voir dans le silo du musée, dans le hall et puis dans tous les étages. Avant de devenir la responsable de l'unité patrimoniale des collections d'ethnomusicologie jusqu'en 2012. Voilà, merci Madeleine Leclerc, merci monsieur. Alors, je vais vous présenter Élodie Saget, qui est donc la responsable du fonds audiovisuel ici au musée. Et donc, cette séance est d'autant plus émouvante que Élodie remplace Claire Schneider, qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc, nous avons repris la suite de ces séances d'écoute qui vont avoir une prospérité, j'espère, puisque nous avons aussi avec nous une des responsables de la Société française d'ethnomusicologie et avec laquelle nous collaborons pour ces séances d'écoute. J'en bafouille. Voilà, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Et voilà, vous allez découvrir et pour ceux qui connaissent, écouter cette flûte et je vais donner la parole à Élodie.
Merci Muriel, bonjour à tous, merci pour votre présence. Moi je vais vous présenter brièvement Daniel Lieferman. Vous êtes flûtiste, spécialiste du shakuhachi. Vous avez commencé l'apprentissage par la flûte traversière à l'École normale de musique de Paris. Et c'est lors d'un voyage au Japon que vous vous êtes initié au shakuhachi. Et vous avez continué à votre retour en France. Vous avez étudié avec Franck Noël, qui est l'ancien élève de Yokoyama. Vous avez par la suite rencontré Iwamoto et vous avez continué votre apprentissage avec lui jusqu'à rencontrer en 2000 et à devenir le disciple en 2000 de Teruhisa Fukuda. Et c'est de ce maître que vous tenez le diplôme de Daishihan. Donc vous êtes grand maître et vous avez reçu le nom de Seikoku, donc souffle de sagesse. Donc vous nous ferez une démonstration tout à l'heure de flûte shakuhachi. Et chose importante, et je pense qu'il y a des membres dans la salle, donc vous enseignez le shakuhachi, vous avez fondé l'association La Voix du Bambou à Charenton, qui a pour mission de développer l'apprentissage de la pratique et la diffusion du shakuhachi. Vous vous produisez en concert de musique traditionnelle japonaise et également en création de musique contemporaine et de théâtre musical. Nous aurons le plaisir de pouvoir vous écouter et je vais dire simplement quelques mots effectivement de notre collaboration avec la Société française d'ethnomusicologie avec qui nous avons organisé cette rencontre. Et notamment, je voudrais remercier Joanie Curtet qui ne peut pas être ici et Ingrid Le Gargasson qui représente la société aujourd'hui. Donc nous collaborons depuis de nombreuses années, comme tu le disais Muriel, c'est avec Claire Schneider et toi que la collaboration a commencé et elle continue. Donc voilà, dans le but de faire découvrir les musiques traditionnelles et les musiques du monde. La Société française d'ethnomusicologie a simplement, je précise, deux activités importantes, publie la collection Hommes et musique, qui sont donc des textes et des enregistrements, et je signale qu'elle collabore avec d'autres institutions comme le Festival international du film ethnographique Jean Rouch, notamment pour l'attribution du prix Bartok SFE. Et voilà, donc j'espère vous retrouver rapidement avec une nouvelle séance programmée en collaboration avec la Société française d'ethnomusicologie. Je laisse la parole à nos deux intervenants. À tout à l'heure.
Beaucoup. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour remercier énormément Muriel Lardot, mon ancienne collègue, et Élodie Saget pour l'accueil et leur invitation à venir ici. Je suis heureuse aussi d'être avec Daniel Lieferman. Je remercie Ingrid Le Gargasson de la Société française d'ethnomusicologie. Et maintenant, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un disque qui est paru sous deux formats. Format double vinyle que vous voyez ici et un format CD qui est, je crois, qui circule parmi vous, qui est peut-être là. Alors, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil si. Alors, c'est un projet qu'on a eu le grand plaisir de faire suite à la venue de ce grand flûtiste Teruhisa Fukuda qui était de passage à Genève en 2015 et qui m'a été présenté par Akira Tamba, qui est un musicologue de renom et un compositeur qui a passé sa carrière d'origine japonaise, qui a fait toute sa carrière ici au CNRS en tant que chercheur en musicologie. J'ai préparé quelques images un petit peu pour vous montrer le contenu d'éléments qui sont dans ce disque et également vous parler du répertoire qui est présenté. Et ensuite de ça, je vais passer la parole, ou plutôt le micro, à Daniel Lieferman qui va vous parler plus spécialement de l'instrument de musique en vous donnant une démonstration et en vous parlant également de certains aspects comme la notation musicale, par exemple. Alors, ce disque, j'ai repris cette image qui est présentée sur la pochette. C'est une photo qui montre des moines Komuso. Donc, l'instrument de musique, la flûte shakuhachi, était autrefois, enfin, à l'origine, exclusivement joué par ces moines Komuso, dont je vais vous dire quelques mots. Les Komuso appartenaient à la secte Fuké du bouddhisme zen, Fuké étant désigné selon le nom d'un courant. Attendez, que je me. Ça fait référence, Fouquet fait référence au nom du moine chinois par qui le bouddhisme, cette forme de bouddhisme a été introduite au Japon. Il y a des prêtres et des moines japonais qui sont allés étudier le bouddhisme au Japon. Et au XIIIe siècle, ces moines étant revenus au Japon, ont été accompagnés de certains moines chinois. L'un d'eux jouait d'un instrument de musique, la flûte shakuhachi, et c'est ainsi que la musique méditative de shakuhachi a été introduite au Japon. Il faut savoir qu'au Japon, il y a plusieurs instruments de musique traditionnels qui en fait sont d'origine chinoise. Alors, komuso, comme vous les voyez ici. Le mot komu signifie vide, rien, et so signifie moine ou religieux. Donc les komuso sont d'une certaine manière, peuvent être désignés comme des moines du vide et du rien. Et ces personnages étaient à l'origine des samouraïs. Donc, durant la période Edo, la société japonaise était structurée en 4 niveaux. Un des niveaux les plus élevés était celui des samouraïs, qui étaient des guerriers attachés au shogunat, au shogun. Suite à différentes histoires politiques et des histoires de territoire également, il y a un certain nombre de samouraïs qui se sont retrouvés sans affectation, sans maître. Ils se sont regroupés et ont fondé une école. Et cette école a été... Ils ont fondé un temple, notamment à Tokyo. Et donc, étant un petit peu en marge de tout le système du shogunat, le système a quand même permis qu'ils aient un certain nombre de privilèges. Et l'un de ces privilèges était de circuler librement sur le territoire et également de pouvoir mendier. Donc, ces komuso ont développé une technique de méditation, notamment en prenant la flûte shakuhachi comme élément principal, outil de méditation. Ils portent sur la tête ces paniers de paille tressée caractéristiques, qui sont des paniers d'osier, 10 paniers célestes, qui recouvrent donc toute la tête jusqu'au bas du visage, en témoignage de leur renonciation à la matérialité et de leur absence d'ego. Dans un temple célèbre qui a été fondé par les Komuso, on dit que le shakuhachi était avant tout un outil de la pratique du zen, tel que cela fut enseigné par le prêtre japonais par qui cette forme de méditation a été introduite au Japon. Il y a une école qui a été fondée à Tokyo par le maître de shakuhachi Kurosawa Kinko, et elle est reconnue maintenant sous le nom de l'école de Kinko. C'est à cette époque qu'a été créée une trentaine de pièces qui constituent un répertoire musical qu'on appelle Onkyoku, et c'est vraiment de la musique de méditation. Peut-être vous faire tout de suite découvrir une des pièces qui est publiée dans le disque que je vous présente aujourd'hui et qui est interprétée par Fukuda, dont je vais dire quelques mots après. cet instrument donc, qui était joué à l'origine par les Komuso a, depuis plusieurs années, depuis la fin du 19e siècle, intégré les répertoires de musique, d'autres répertoires de musique traditionnelle japonais, et en compte tenu des possibilités expressives et acoustiques très importantes de cet instrument, dont vous aurez une démonstration un peu plus tard. L'instrument a été beaucoup adopté par les compositeurs de musique contemporaine pour toutes sortes d'usages et de répertoires. Peut-être, juste avant de terminer ma première partie, certains éléments qui sont présentés sur ce disque, parce que ce disque qui fait partie d'une collection, la collection éditée par le Musée d'ethnographie de Genève, c'est le 115e disque qui est publié dans cette collection, avec une ligne éditoriale qui est toujours celle-ci, c'est d'avoir évidemment un ensemble de pièces musicales enregistrées avec une très bonne qualité, mais c'est également des projets un peu complets qui consistent à présenter aussi d'autres éléments. Donc là, il y a un texte dans cet ouvrage qui a été écrit par Fukuda et auquel j'ai participé également, et il y a des photographies qui sont présentées. Les photographies, notamment cette belle photographie qui est présentée en couverture, a été faite par Kiku Yamata, qui était une femme de lettres franco-japonaise, née à Lyon en 1897 et décédée à Genève en 1975. Et donc c'est une femme qui a beaucoup fréquenté le milieu artistique parisien dans les années 20. Elle était littéraire, auteur d'un certain nombre de romans, et elle a beaucoup développé et fait connaître la culture japonaise en France. Donc, à son décès, sa collection, les photographies qu'elle a faites ont été données au musée d'ethnographie de Genève, un certain nombre d'objets également, et c'est comme ça qu'on a le plaisir d'avoir ces images magnifiques. Un autre élément qui est présenté également dans le disque, vous l'avez ici à l'intérieur. Pour ceux qui s'intéressent, le graphisme a été fait par Werner Jecker, graphiste à Lausanne. Il y a ce mandala qui est reproduit ici. Alors, juste avant de conclure, je ne vais pas vous lire tout ce qui est dans la notice et qui accompagne le disque, mais ma rencontre avec Fukuda a été vraiment une rencontre magnifique, un grand moment. Fukuda a publié plusieurs disques. Il a écrit un certain nombre d'articles. Et il y a des articles qui ont également été écrits sur lui. Mais là, pour ce disque-ci, j'ai fait un entretien avec lui et je lui ai demandé qu'il nous parle de sa pratique à lui. Et c'est peut-être ça que j'aimerais, peut-être pour terminer, juste vous lire un extrait qui est, on ouvre les guillemets, c'est Fukuda qui nous raconte, il s'est reproduit dans le livret, comment il a découvert, comment il est arrivé à jouer du shakuhachi. Donc Fukuda est né en 1949. Fukuda évoque ainsi son parcours. J'ai commencé à jouer du shakuhachi à l'âge de 20 ans, alors que j'étudiais l'économie à l'université. Cela fait donc 50 ans que je joue de cet instrument. Je viens d'une famille de mélomanes. Mes trois sœurs et moi avons appris le piano quand nous étions enfants. Le son du piano et le chant ont toujours été présents à la maison. L'art et l'esprit de la musique traditionnelle japonaise se transmettent dans le cadre du cercle familial. Je n'ai pas eu la chance de grandir au sein d'une famille qui avait à cœur de protéger et conserver ses connaissances, ce qui me semble être plus important que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Mon père était enseignant. Il a fait un parcours classique à l'université, il aimait beaucoup la musique et jouait de la clarinette et du violon. J'ai gardé son violon qui est toujours à la maison. Quand j'étais enfant, les écoles de musique au Japon enseignaient la musique occidentale. Ce qui fait qu'à la fin de mon adolescence, je ne connaissais rien des musiques traditionnelles de mon pays. Bien que j'ai été toujours attirée par les instruments avant, quand j'entendais le shakuhachi à la radio, je trouvais cette sonorité horrible. C'est à l'université que je l'ai entendu pour la première fois en direct. Quelqu'un jouait du shakuhachi. Ça m'a captivée. Comment une telle sonorité pouvait-elle émaner d'un instrument aussi simple? J'ai commencé à apprendre le shakuhachi par le répertoire de l'école Tozan. Cette école s'éloignait du répertoire Onkyoku, dont je vous ai parlé tout à l'heure, datant de la période Edo, pour développer une musique influencée par l'esthétique occidentale. Puis j'ai appris le répertoire Ankyoku à l'école Kinko et la technique de jeu traditionnelle du shakuhachi. Après l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai commencé ma carrière professionnelle de musicien. J'ai d'abord fait partie d'un ensemble de musique traditionnelle et vers l'âge de 36 ans, j'ai commencé à me produire comme soliste avec plusieurs compositeurs formés à la musique occidentale qui cherchaient à collaborer avec moi. En 2002, j'ai fait la rencontre d'Akira Tamba, compositeur et musicologue de grand renom, vivant à Paris, et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et en 2002, Akira Tamba et moi avons fondé un groupe appelé Ijirikai. La philosophie de ce groupe est de s'intéresser à la tradition et au renouvellement. Lors de son passage à Genève en 2015, qui a pu être organisée grâce à Akira Tamba, Fukuda était, après avoir toutes ces années, après avoir joué des musiques d'influence plus ou moins occidentale avant de se reconcentrer sur le répertoire de musique traditionnelle, nous a proposé une offrande musicale qui a donné son titre au disque que vous avez devant vous. Alors on voit Fukuda pendant son concert. Les photos ont été faites par Daniel Lieferman qui était présent avec nous. Et le concert a été présenté par Monsieur Akira Tamba. Et la veille de ce concert, on a fait l'enregistrement au studio Ansermet à Genève, le studio de la radio suisse, radio et télévision suisse, par l'ingénieur du son que vous voyez ici, qui s'appelle Renaud Millet-Lacombe, qui fait les masterings de toute la collection de disques publiés dans notre collection. Voilà. Et juste peut-être pour terminer, pour ceux qui s'intéresseraient à ce type de publication discographique, elles sont mentionnées, elles sont décrites sur le site internet du Musée d'ethnographie de Genève. Donc je vais maintenant passer la parole à Daniel qui va nous parler plus précisément de l'instrument de musique et de la technique de jeu.
Merci. Merci Madeleine. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Teruhisa Fukuda il y a une vingtaine d'années. C'était à l'occasion d'un concert à la maison des étudiants du Japon, boulevard Jourdan, où il était venu pour un concert. Et à l'époque, moi j'avais étudié avec un autre maître japonais qui s'appelle Yoshikazu Iwamoto, mais ce musicien avait disparu. Disparu dans le sens où il est parti sans laisser de traces, il n'est pas mort, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il s'est volatilisé dans la nature, ce qui est assez étrange. Et donc, j'étais à la recherche d'un nouveau maître à cette époque-là. Et donc, j'ai rencontré Maître Fukuda à cette occasion. Et je lui ai dit, ben voilà, moi, je suis à la recherche d'un maître et j'enseigne déjà aussi un peu. On est un petit groupe de Français, on voudrait continuer l'enseignement. Et je lui ai dit, ben voilà, est-ce que vous serez d'accord pour venir enseigner de temps en temps, faire des masterclass, des choses comme ça. Puis, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Et comme beaucoup de Japonais, il laisse un peu les choses planer comme ça. Et genre, bah, je vous dirai plus tard, quoi. Et effectivement, plus tard, ça a été 2 ans après, il est revenu en France à l'occasion d'un concert à l'UNESCO où il jouait avec... Il y avait des instruments à cordes, il y avait une pianiste aussi, il y avait des créations de compositions contemporaines et puis quelques pièces traditionnelles aussi. Et ça a été le début de cette merci. Ça a été le début de cette collaboration qui continue jusqu'à aujourd'hui, puisque donc avec Maître Fukuda, on organise régulièrement depuis une vingtaine d'années des masterclass pour notre association qui s'appelle La Voix du Bambou dont Madeleine a parlé. Et cette rencontre a été vraiment, vraiment déterminante parce que Maître Fukuda est un homme qui sait s'adapter à énormément de situations. La France, ce n'est pas le Japon, et le Japon, ce n'est pas la France. Et dans l'enseignement traditionnel de l'instrument au Japon, les maîtres parlent peu. On apprend essentiellement par imitation directe. Le maître joue et puis on essaye d'imiter le mieux possible. Et puis quand c'est au point, on passe à quelque chose de plus difficile, etc. etc. Mais maître Fukuda, lui, il parle plus. Il donne des explications qui sont parfois très claires, parfois moins, parce que la communication à propos de l'esthétique de la musique n'est pas quelque chose de simple. Il y a des concepts, par exemple, ce qu'on appelle le concept de ma, c'est ce qui concerne l'intervalle entre deux choses. Alors c'est une notion qu'on trouve dans l'architecture, dans tous les arts traditionnels japonais, mais c'est vrai que c'est une notion qui est extrêmement difficile à atteindre, parce que, oui, l'intervalle entre deux choses, ok, mais de combien, de quoi, et ça, c'est pas mesuré. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement perturbantes pour un occidental, par exemple, qui veut apprendre cet instrument, c'est que nous, on est assez cartésiens, donc on aime bien qu'on nous dise il faut faire comme ci, comme ça. Ça nous sécurise, on sait où on va. Mais le maître japonais, souvent, lui, il va vous dire voilà, moi je fais comme ça. Et puis il joue et il fait autre chose. Alors on lui dit mais maître, vous n'avez pas fait ce que vous avez dit précédemment. Et il dit oui. Ah oui, d'accord, mais. Voilà, c'est tout. Alors, mais je fais quoi? Vous faites comme vous le sentez. Ah bon, d'accord. Mais alors si je fais ça, après je vais être obligé de faire ci. Oh là là, alors là on rentre dans des trucs très très compliqués. Et en fait, ce qui est très très intéressant pour nous occidentaux, c'est qu'on a toujours tendance à aborder les choses en disant c'est comme ça ou comme ci. Et en fait, dans cette tradition, on se rend compte que ça peut être et comme ça et comme si, un peu, les deux, ou ça peut changer, c'est pas fixe. Alors ça peut être un petit peu perturbant, c'est vrai au début, parce que il faut s'adapter à ça, et en même temps, pour un maître japonais qui vient en Occident, il faut aussi qu'il s'adapte, parce que généralement au Japon, les élèves sont extrêmement respectueux du maître, ce qui est tout à fait normal. En Occident aussi, on est respectueux du maître, mais on est un peu plus dissipé. Si, par exemple, on est en train de l'écouter et qu'il y a une guêpe qui rentre, tout le monde est là. On peut se laisser aller à des attitudes aussi, parfois, un peu plus cavalières avec le maître. Ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas, mais bon, on est plus direct, voilà. Et un maître japonais peut être un peu désarçonné par cette façon beaucoup plus franche qu'on a, nous, d'aborder l'apprentissage d'un instrument comme ça. Et ce qui est merveilleux avec maître Fukuda, c'est que il est extrêmement souple et qu'il ne s'offusque pas si on fait des entorses à des protocoles. Parce que vous savez qu'au Japon, il y a une étiquette qui est quand même assez, assez sévère et il faut faire les choses d'une certaine façon et pas d'une autre. Mais bon, avec lui, ça roule tout seul. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Et c'est aussi un être d'une très grande générosité. Et une chose aussi que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il est presque tout le temps dans une attitude de gratitude. C'est-à-dire que, bien que ce soit un très très grand maître, il est très 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 humble, très très modeste, et on sent qu'il est toujours dans cette espèce d'appel un peu de la spiritualité où si les choses adviennent comme elles adviennent, il est dans cette gratitude. la gratitude par rapport au fait que, bah oui, il puisse jouer comme il joue, qu'il puisse être comme il est. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux comme attitude face à la vie, comme philosophie de la vie. Alors oui, j'ai amené des flûtes. Là, j'ai amené deux flûtes. Donc il y en a une première ici qu'on appelle un shakuhachi. Donc ça veut dire littéralement un pied et 8 pouces. C'est la longueur de l'instrument en japonais. Hein. C'est-à-dire un shaku, c'est un pied, et un sun, c'est un pouce. En fait, la flûte, il faut dire ishaku hasun, c'est un pied et 8 pouces. Mais par contraction, ça devient shakuhachi, c'est-à-dire littéralement pied 8. Ça, c'est une flûte. Et puis, j'en ai amené une autre, là, plus longue. Celle-ci, elle fait 2 pieds et 4 pouces. C'est un ishaku yonsun, et qui est plus grave. Celui-ci donne la note la plus grave, c'est un la. Enfin, ça doit être un la, parce que c'est pas toujours... On essaye de faire des la, mais c'est pas toujours des la. Et celle-ci, ça donne la note la plus grave, ça donne un ré. Nous, on dit un ro, la note la plus grave. Le nom des notes, c'est ro tsure chili. Ça équivaut à ré, fa, sol, la, do. Et je vais peut-être jouer un petit peu pour que vous entendiez la chose. Alors, dans sa construction, la flûte est un peu étrange parce qu'elle n'a que 5 trous. Moi, j'ai 10 doigts, vous aussi, je pense, et on serait tenté d'avoir plus de trous pour les boucher. Et en fait, non. Déjà, dans le port de la flûte, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que, voilà, il y a ces doigts-là ne servent qu'au maintien de l'instrument. Ça, c'est très, très important. Parce que c'est une flûte, quand on la joue, vu qu'il n'y a pas beaucoup de trous, on va utiliser une technique très particulière qu'on appelle la technique Melikali. Melikali, ça veut dire qu'on change l'angle d'attaque du son avec la tête, comme ça. Okay. Alors on peut faire ça comme ça, un peu les montagnes russes, mais évidemment, dans l'art de jouer du shakuhachi, tout ça doit être maîtrisé et mesuré, ce qui devient la difficulté de l'instrument, à savoir que pour faire les intervalles justes qu'on doit utiliser dans la musique, on utilise ces mouvements de tête et des bouchages très partiels des trous, ce qui nous amène à avoir des positions au niveau des doigts, ici, extrêmement précis, avec des bouchages de l'ordre du dixième de trou, donc des tout petits espaces laissés au niveau du trou. Et peut-être vous jouer une petite pièce pour vous mettre un peu dans le bain de la chose. Là, vous avez entendu Maître Fukuda jouer, mais à travers un haut-parleur, et on n'entend pas, en plus il y a toute une ventilation ici, on n'entend pas toutes les subtilités de son jeu. C'est bien dommage parce que ça n'a vraiment aucun rapport quand il joue et quand on entend un enregistrement. Yeah. Cette pièce s'appelle Shikanotone. C'est une pièce qui évoque le Brahms du cerf. En principe, c'est une pièce qui se joue à deux flûtes. Deux flûtes se répondent, mais on peut la jouer en version solo, comme je viens de le faire là. Alors je vois qu'il y a des photos de la voix du bambou qui sont sur l'écran. Là.
Il y a aussi les notations.
Voilà, voilà. Alors je voulais aussi vous montrer des notations. Pour ceux qui vont acheter le disque ou qui l'ont déjà acheté, qui le connaissent, quand Maître Fukuda est venu à Genève, il est venu avec ceci, qui est l'intégralité des partitions qu'il a jouées au concert. Donc, voilà, il y en a quelques mètres comme ça. Voilà, bon. Donc, ça, c'est dans l'ordre des pièces d'ailleurs qu'il a joué sur le disque. Vous pouvez le voir tout à l'heure si vous voulez.
Vous pouvez juste nous dire sur ce qui est noté.
Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai amené justement des scans de partitions pour que vous puissiez voir plus facilement. Par exemple, on peut mettre Tamouké et Genève. Voilà, celle-ci. Vous allez voir la partition en entier, on n'en voit qu'un bout. À venir. Donc on utilise pour la notation du shakuhachi une notation qui n'est évidemment pas la notation portée à cinq lignes occidentales, mais qui est basée sur le syllabaire qu'on appelle le katakana, qui est un des deux syllabaires utilisés pour écrire le japonais. Donc le nom des notes, merci beaucoup. Le nom des notes, comme je vous le disais, c'est Rotsurechi Li. Par exemple, là, vous avez donc écrit en caractère romain Tamouké et la même chose en japonais. Donc deux idéogrammes, hein, les deux idéogrammes qui signifient les mains jointes en fait. Hein. Le premier idéogramme, c'est la main, hein, et puis l'autre idéogramme, c'est le signe de joindre. Et donc on lit de la droite vers la gauche, comme le chinois, en fait, et donc on lit verticalement. Hein. Donc vous avez la première colonne de jeu, là, vous avez un petit signe qui ressemble à une virgule, qui nous dit l'octave à partir de laquelle on va commencer à jouer. Et puis après, vous avez les notes qui suivent. Donc on a deux espèces de carrés là, qui sont la note Ro, qui est la note la plus grave de l'instrument. Et alors la note la plus grave de l'instrument, ce n'est pas vraiment la note la plus grave de l'instrument, parce que la note la plus grave de l'instrument, c'est celle-ci. Ça c'est Ro. Mais on peut descendre encore d'un ton par rapport à cette note-là. Voilà, si je vous joue le début de Tamouké, là, tel qu'il est écrit, ça donne. C'est-à-dire ça. Etc. etc. Donc en fait, les partitions peuvent être considérées plus comme des sortes d'indications de doigté et de mouvements de tête également, puisque tout ça doit être combiné pour donner les intonations justes. Par exemple, cette pièce Tamouké, que vous avez entendu jouer par Maître Fukuda, ce que vous avez entendu là, c'est une version qu'il a adaptée à partir de la pièce originale. La pièce originale est un petit peu différente. Et ça, c'est une des caractéristiques de Maître Fukuda, c'est qu'il reprend les pièces du répertoire Kinko, par exemple, les Honkyoku. Le Honkyoku, hein, c'est littéralement, c'est Honkyoku, c'est le Hon de Nihon, c'est-à-dire la vérité, l'origine. Et Kyoku, c'est un morceau de musique. Donc, Honkyoku, on peut traduire ça par pièce fondamentale, pièce des origines. Donc, c'est vraiment la base, le cœur de la musique traditionnelle du Shakuhachi, telle que les Komuso l'ont transmise, et sans doute aussi bien avant les Komuso, parce que le Shakuhachi, il a quand même été introduit au Japon depuis la Chine, pense-t-on, vers le 7e siècle. Donc, c'est pas une affaire récente, hein, tout ça. Alors, il a pris des formes très, très variées au cours de son existence, parce que il a aussi été plus fin. À un moment, il s'appelait Hitoyogiri, et ça, c'était un petit peu avant. Mais ce sont des musiques qui ont toujours été jouées, sans doute par des lettrés, et très certainement, si ce n'était pas lié au bouddhisme, c'était des musiques de spiritualité. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui. En
fait, ces musiques traditionnelles, elles sont écrites, sont des sortes de partitions comme
non,
ça.
Pas du tout, justement. Justement. Enfin, si, elles sont écrites aujourd'hui, mais elles se sont transmises. Oui. En fait. Voilà, c'est ça. En fait.
Transcription sur papier de C'est une pensée qui est tout à fait différente de la musique classique occidentale où le geste de l'écriture fait partie de la conception et de la composition musicale. Là, c'est l'inverse. Les musiques sont transmises, elles sont jouées et à un moment, on les met sur papier.
Voilà, c'est ça. En fait, même aujourd'hui où on a plein de canaux d'apprentissage, des technologies pour apprendre, puisqu'on peut enregistrer le son, on peut l'écrire, on peut le diffuser très, très largement. Aujourd'hui encore, quand on veut apprendre un instrument comme ça, si on n'est pas confronté face à face avec le maître, c'est extrêmement difficile d'apprendre. Apprendre le shakuhachi tout seul, c'est vraiment mission impossible, parce qu'en fait, on peut écouter les maîtres, on peut écouter tous les disques qu'on veut, tant qu'on n'a pas vu comment on pratique la technique de cet instrument, c'est vraiment impossible à deviner. Il y a des choses extrêmement sophistiquées dans la façon de jouer. Et la transmission, elle est essentiellement orale, comme ça a été pendant des siècles. Alors le premier qui a un peu systématisé ça, c'est Kurosawa Kinko, dont Madeleine a parlé, qui a été au 18e siècle, un moine qui a parcouru tout le Japon et puis qui a fait un travail de collecte de pièces de temple en temple. Et finalement, ça a donné cette trentaine de pièces, ce qu'on appelle les 36 pièces de Kinko dans notre jargon. Et lui, il a mis au point ce système de notation. Enfin, pas exactement celui-là, parce que ce que vous voyez là, c'est l'écriture de Maître Fukuda, qui évidemment, vous le pensez bien, a personnalisé l'écriture. Parce que d'un maître à l'autre, on n'écrit pas tout à fait de la même façon, ce serait trop simple. Hein. Et puis, il y a plusieurs écoles aussi. Il y a l'école Kinko, il y a l'école Tozan, il y a plein de petites écoles qui ont leur système d'écriture différent. Il ne faut pas oublier aussi que quand on joue, par exemple, avec d'autres instruments, comme le koto ou le shamisen, chaque instrument a son système de notation. Donc, vous voyez, quand on joue en ensemble, par exemple avec un shamisen et un koto, on joue une pièce qui dure 10 minutes et à un moment, on s'est planté, il faut reprendre à... Ben, on ne peut pas reprendre à la mesure 18, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas noté comme ça. Et voilà. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive quand même. je vous rassure. Mais voilà, chaque école, chaque instrument a son système propre, ce qui fait que, c'est vrai, c'est très particulier, un peu déroutant.
Monsieur Liefman, mais, oui. Excusez-moi, est-ce que donc, tout est écrit ou transmis puis écrit ou transcrit, mais est-ce qu'il y a aussi des instrumentistes qui improvisent?
Oui, bien sûr, on peut improviser avec le shakuhachi. Il y a des gens qui font du jazz. Même actuellement au Japon, il y a une mode dans la J-pop. On voit des choses assez ahurissantes avec le shakuhachi qui est utilisé dans des groupes. Je ne sais pas si un jour vous pouvez voir ça, mais c'est parfois un peu ahurissant même la façon dont il est utilisé. Donc évidemment, pas de façon traditionnelle, hein. Mais on voit aussi apparaître au Japon des musiciens extrêmement virtuoses, vraiment des gens qui ont une capacité à jouer. Par exemple, avec le shakuhachi, il y a des notes qui sont extrêmement difficiles à produire et qui sont toujours plus faibles en volume. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai joué, là, vous avez entendu, il y avait des sons qui étaient nettement inférieurs en volume aux autres. Ça, c'est dû à la technique de tête, comme ça. Parce que plus on ferme l'angle ici, et plus la flûte a un volume réduit. Donc, c'est pas comme un clavier où tout est bien tempéré et égalisé. Ici, c'est pas du tout le cas. La dynamique de l'instrument n'arrête pas de faire ça avec la mélodie. Donc, jouer par exemple une gamme chromatique, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Et en plus, ça ne présente pas vraiment d'intérêt parce que l'instrument n'est pas fait pour ça. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une tendance un petit peu aujourd'hui à pousser la flûte dans ses derniers retranchements et à faire des choses qu'on pourrait jouer par exemple avec une flûte traversière, mais avec beaucoup plus de facilité évidemment, puisqu'il y a des plateaux. Mais ce qui fait vraiment la particularité de cet instrument justement et sa beauté, c'est ses contraintes. Parce que, comme il n'y a pas beaucoup de trous, qu'on a cette technique très très complexe, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'avec ces contraintes qui sont extrêmement fortes, on a un tout petit espace de liberté, mais vraiment minuscule. Et ce que j'ai compris, c'est que dans cet espace de liberté qui est minuscule, on pouvait trouver tout un univers, justement. Exactement comme si vous regardez une mécanique avec des engrenages, il y a toujours un espace entre les dents d'un engrenage. Et ce vide, il est constitutif au fait que ça puisse fonctionner. S'il n'y a pas de vide, les engrenages sont soudés. Et ça ne marche plus. Donc, il nous faut trouver dans ce vide minuscule cet espace de liberté qui va nous permettre de nous exprimer complètement. C'est un peu étrange, mais je pense que c'est ce qui fait un des intérêts justement d'approfondir un instrument comme ça, c'est que ça nous oblige à rentrer dans un autre mode de conception de l'expression.
Pour dire cela plus simplement, est-ce qu'il vous arrive de trouver quelque chose que vous ne cherchez pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du principe de sérendipité qui est à l'œuvre dans l'art comme dans les sciences?
Un peu, parce que comme c'est un instrument qui est très très difficile à jouer, souvent on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et il y a des tas de dérapages. Là, tout à l'heure, quand j'ai joué, j'ai fait plein de petits dérapages. Bon, ça ne vous a pas choqué, mais moi, je perds un peu le contrôle. Vous voyez, c'est comme un skieur qui slalome. De temps en temps, on touche les portes, et puis de temps en temps, paf, il y en a une qui tombe. Nous, c'est un peu pareil, parce qu'on est sur le fil. C'est tellement difficile de tenir le son que des fois, ça décroche, ou la justesse, c'est pas ça. Donc, de ces accidents, parfois, peut naître des choses très belles. Ce qui est très intéressant aussi avec la conception de cette musique-là, c'est qu'on ne ferme pas la porte à tout ce qui peut advenir, dans la mesure où le bruit enfin, ce que nous on appelle du bruit, fait partie aussi de cette musique. On peut avoir des bruits de souffle, des choses. Le son n'est pas forcément pur comme on pourrait l'imaginer. Et des fois, oui, il y a des, on plante des gros pins comme ça, et puis on se dit, ouais, en fait, c'était très beau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, après, on a envie de refaire le pin, puis ça marche pas, parce qu'évidemment, c'était une fois, quoi. Il y a un côté. Oui, c'est pour ça que je parlais de gratitude à propos de Maître Fukuda, c'est que il m'a bien fait comprendre ça, c'est que des fois, ouais, il y a des choses, des accidents comme ça. On se dit, oh là là, c'est... Et puis en fait, non, c'est superbe, quoi. C'est une grâce, c'est un état de grâce. Et ce n'est pas tous les jours.
D'ailleurs, juste, j'ai oublié ce dernier paragraphe du témoignage de Fukuda sur les pièces qu'il a jouées dans ce disque. Et il dit, j'ai choisi d'interpréter les pièces suivantes dans l'esprit d'une offrande musicale dédiée à mon instrument. Car en jouant du shakuhachi, je peux m'engager dans la voie de l'illumination. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui sont apparues et qui apparaîtront dans ma vie.
Est-ce qu'il y a une question ?
Alors ma question, c'est pour atteindre les autres notes et pour changer l'intonation, vous changez l'angle de la flûte par rapport à votre bouche. Mais la question, c'est pourquoi vous bougez votre tête ? Et vous ne bougez pas la flûte, en fait.
Alors oui. Ça, c'est une bonne question. Mais ça existe, ce que vous dites. Il y a quelques musiciens au Japon qui ne bougent pas la tête, mais bougent la flûte. C'est rare, hein, c'est rare.
D'accord.
Ça, il y a plein de raisons. Je pense que c'est des raisons mécaniques, en fait. Parce que... C'est beaucoup plus facile de faire ce geste-là sur le côté que ça mobilise beaucoup plus le corps. Et nous, on est dans un principe d'économie de mouvement, d'économie de moyens aussi, parce que, on a besoin de quantifier les mouvements. Pour arriver à faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que tous les mouvements de tête sont en quelque sorte crantés, vous voyez, pour obtenir telle et telle hauteur de son, la tête va à tel et tel endroit, okay, tout en bouchant les trous de façon partielle. J'ai répondu à votre question.
Oui, très bien, ouais. Merci.
Merci. Et aussi une chose, oui, je pense que Madeleine ne me contredira pas, mais... les Komuso, qui étaient des guerriers en fait, souvent à la base, et qui n'étaient pas des enfants de cœur, hein, le plus souvent, ils utilisaient leur shakuhachi comme une matraque. Hein. Et là, actuellement, les flûtes modernes, elles sont en deux sections, on peut les démonter, donc c'est très pratique pour le transport. Mais à l'origine, hein, au 18e ou au 17e siècle, à l'âge d'or du shakuhachi, elles étaient en un seul tenant. Et en plus, avec, il faut imaginer ici, là, ça c'est les racines, et là c'est coupé, c'est joli, mais il y a des flûtes où les racines, ça fait comme un paquet de cheveux au bout, hein, avec les racines. Là, c'est ça, je peux vous dire que ça fait une matraque redoutable. Hein. Et alors aussi, quand deux Komuso se rencontraient, ils se racontaient des histoires de Komuso, évidemment. Mais il y a eu tellement d'abus, parce que comme ils étaient masqués, ces gens-là, il y a eu beaucoup d'usurpateurs. Ils avaient le privilège de se déplacer librement, parce que ce n'était pas le cas pour tout le monde au Japon. Ils avaient le privilège de mendier, ce qui était effectivement très, très, très restreint comme autorisation. Alors on dit qu'en retour de ces privilèges qui leur ont été accordés par le shogunat, puisqu'ils étaient masqués, ils avaient une espèce de mission de renseignement, d'espionnage, pour aller raconter un peu ce qui se passait à droite, à gauche. Voilà, c'est possible. c'est pas sûr, mais ça peut être le cas. Et alors, quand deux Komuso se rencontraient, pour savoir si on est Komuso, il faut faire ça. Alors, le premier commence. On joue ça trois fois. Si l'autre a un vrai Komuso, il doit répondre. Et à ce moment-là, on est sûr que ce sont deux Komuso. Sinon, je vous laisse imaginer. Bon, cela dit, ça fait partie des rites de toute confrérie. Hein. Les compagnons du Tour de France, quand ils se rencontraient, ils avaient des rites aussi avec leur canne, leur machin, leur truc. Dans toutes les sociétés un peu secrètes, on a des choses comme ça. Oui, ce qui s'est passé avec le Komuso, c'est que... Ça marchait tellement bien leur affaire, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu devenir Komuso. Et alors ça posait plein de problèmes, parce qu'en fait, eux, par exemple, ils n'avaient pas le droit d'enseigner le Shakuhachi. Ils n'avaient pas le droit. Mais en fait, ils le faisaient quand même. Et donc, ils sortaient des temples, ils allaient en ville, et puis ils allaient donner des leçons. Parce qu'en fait... Les gens de la bourgeoisie du temps de l'époque Edo, il y avait plein de gens qui jouaient quand même de cette flûte. Et ça leur permettait de se faire aussi un peu d'argent. Mais alors du coup, ceux qui savaient jouer de la flûte pouvaient tenter de revêtir l'habit de Komuso. Et alors ça a créé vraiment plein de problèmes, ce qui fait que l'empereur Meiji, à un moment, il en a eu assez, puis il a dit, allez, on arrête tout, on dissout l'ordre. Et pendant une dizaine d'années, ça a été interdit. L'ordre des Komuso a été dissous. Et puis après, ça a repris quand même, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas là pour en parler ce soir. Mais voilà, il y a plein d'anecdotes hein, sur ces fameux moines. Là, Madeleine en a un peu parlé. Et c'est vrai que c'est très particulier, très particulier.
Alors, avant que vous nous jouiez de la deuxième flûte, je voulais juste préciser, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très très important, c'est que cette rencontre, elle a été également organisée grâce à l'exposition Fendre l'air, l'art du bambou au Japon, que je vous encourage à aller voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est une exposition assez extraordinaire, même complètement extraordinaire. Voilà. Monsieur Lieferman, vous nous... Et puis, vous avez vu, les CD et les coffrets sont là, et voilà, vous pouvez les en acquérir si vous le souhaitez.
Thank you.
Voilà, que vous pouvez le constater, c'est une musique très méditative. Et quand on joue ces pièces, évidemment, on est dans un état intérieur particulier, très une plongée à l'intérieur de soi-même, dans une espèce d'infini. Où tous les possibles sont là. Voilà. Merci.
J'ai déposé ici quelques exemplaires de ce fameux disque que vous pouvez acquérir. Alors, le disque, c'est un album double, donc vous avez vu, est au prix de 30 euros et le CD au prix de 22 euros.